Merci de votre fidélité à l'écoute de RFI. Il est 14h temps universel, 16h à Paris, 17h à Soumis.
Charlotte Hydrac.
L'indignation après une frappe russe dans la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, qui a tué au moins 32 civils. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis des mois. Pour les États-Unis, la Russie, je cite, dépasse les limites de la décence. À l'instant, Berlin condamne une attaque barbare. C'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza. L'hôpital Al-Ahli à Gazaville, désormais hors service après une frappe israélienne la nuit dernière. Le bâtiment avait été évacué à la dernière minute. Vote en cours en Équateur, second tour de la présidentielle ce dimanche. Scrutin qui s'annonce serré entre le président sortant Daniel Noboa et la candidate de gauche Luisa González. À suivre aussi la visite du ministre français de l'Intérieur au Maroc à partir de ce soir pour parler immigration en plein nouveau coup de froid entre Paris et Alger. Et puis on sera sur la route du Paris-Roubaix, la dure des durs, la prestigieuse et éprouvante course cycliste dans le nord de la France. Les coureurs ont fait le plus gros. L'armée israélienne affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. L'organisation islamiste, elle, dénonce un nouveau crime de guerre après la frappe qui a donc visé la nuit dernière l'hôpital Al-Ahli à Gazaville, au nord du territoire palestinien. L'hôpital qui est désormais hors d'usage, Oriane Verdier.
Des centaines de patients parfois dans un état critique, le personnel hospitalier et des dizaines de familles réfugiées dans l'hôpital Al-Ahli, tous ont eu 20 minutes cette nuit pour évacuer avant qu'Israël ne bombarde le bâtiment, raconte le diocèse anglican de Jérusalem qui administre l'hôpital. Aucun blessé ou mort direct selon un premier bilan, mais au moins un enfant admis pour une blessure à la tête est mort durant l'évacuation d'urgence. D'autres personnes risquent de mourir faute de soins puisque les patients sont aujourd'hui dans les rues. Gazaville est coupée du reste de l'enclave, le bâtiment de chirurgie de l'hôpital et la station de production d'oxygène destinée aux soins intensifs sont détruits selon la défense civile palestinienne. L'armée israélienne cible fréquemment les hôpitaux, arguant que le Hamas y héberge des centres de contrôle. Elle ne procure cependant aucune preuve et ne laisse aucun observateur indépendant entrer à Gaza. Les autorités israéliennes empêchent également tout approvisionnement en aide humanitaire dans l'enclave depuis près d'un mois et demi, privant la population en médicaments et en nourriture notamment. Hier, le ministre israélien de la Défense a annoncé l'intensification des opérations militaires. Le territoire est morcelé et plus des deux tiers sont déjà sous contrôle israélien, interdit à la population gazaoui ou sous ordre d'évacuation.
Et réaction notamment de la diplomatie britannique qui appelle Israël à cesser ses attaques qualifiées de déplorables contre les hôpitaux à Gaza. Londres, par ailleurs, consternée après les frappes de missiles russes à Soumis, dans le nord-est de l'Ukraine. Le dernier bilan est de 32 morts, des civils, plus de 80 blessés, en plein centre-ville, à une heure de grande affluence en ce dimanche des Rameaux. C'est la frappe la plus meurtrière de ces derniers mois en Ukraine. À noter, entre autres, cette réaction des États-Unis qui se sont rapprochés récemment de Moscou. Pour Washington, la Russie dépasse les limites de la décence, je cite. En Italie, la chef du gouvernement Giorgia Meloni condamne une attaque horrible et lâche. Emmanuel Macron, lui, estime que la Russie poursuit la guerre au mépris des vies humaines, du droit international et des offres diplomatiques du président Trump. Donald Trump est le bras de fer commercial face à la Chine. Pour Pékin, l'exemption des surtaxes américaines pour les smartphones, ordinateurs et produits high-tech est un petit pas pour corriger de mauvaises pratiques. La Chine appelle dans le même temps Washington à annuler complètement les droits de douane réciproques. Le secrétaire d'État américain au commerce vient de préciser que ces produits électroniques feraient l'objet de droits de douane séparés qui seront mis en place dans un mois environ et qui concerneront aussi les semi-conducteurs. Vote en cours en Équateur pour le second tour de la présidentielle avec d'un côté le président sortant Daniel Noboa, de l'autre la candidate de gauche Luisa González, avec une préoccupation majeure, c'est la sécurité. Des pans entiers du pays sont contrôlés par les gangs du narcotrafic qui se livrent une bataille sanglante pour exporter la cocaïne en provenance de Colombie. Dans le port de Guayaquil notamment, les pêcheurs artisanaux sont victimes victime d'extorsion par le crime organisé. Témoignage de l'un d'entre eux sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.
Les extorsions ont commencé il y a 2 ans. Nous devons payer 20 dollars par semaine pour chaque embarcation. Dans le golfe de Guayaquil, il y a environ 40 communautés de pêcheurs et toutes sont soumises à ce système. Et celui qui refuse de payer, il se fait menacer, séquestrer. Certains collègues se sont même fait assassiner car ils n'ont pas voulu payer cet impôt mafieux. Il y a même des disparus. Les autorités sont au courant, mais elles ferment les yeux. Elles ne sont d'aucune aide alors que la marine est responsable de la baie. Une des communautés de pêcheurs a même dû quitter son village il y a 1 an. Ils n'en pouvaient plus des vols et des intimidations. Et récemment, une autre communauté a été victime de vols. On leur a pris 30 moteurs de bateaux et on leur a volé des affaires dans leur maison.
Un témoignage recueilli par notre envoyé spécial Raphaël Morand. J'ajoute que l'état d'urgence a été décrété dans plusieurs régions d'Équateur en ce jour de vote. Pas de fumée blanche encore au Gabon, où l'on attend encore les résultats de l'élection présidentielle d'hier. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé des chiffres compilés à partir de midi, temps universel, mais cela prend manifestement plus de temps que prévu. Notre équipe, en tout cas à Libreville, nous appelle dès qu'il y a du nouveau. À peine détendu, les relations se crispent à nouveau entre Paris et Alger avec la détention d'un agent consulaire algérien en France. 3 hommes, dont un travaille donc dans un consulat d'Algérie en France, ont été mis en examen vendredi à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé puis séquestré il y a près d'un an un influenceur très critique contre le régime algérien. Situation inadmissible, dit la diplomatie algérienne. Nouvelle escalade donc après la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Paris, alors que Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, lui, est attendu ce soir au Maroc pour une visite éclair. Il dit venir pour consolider les avancées, notamment en matière d'immigration, Raphaël Delvolvé.
Avant même le début de la visite, le ministère français de l'Intérieur se félicite d'un chiffre spectaculaire, l'octroi de laissez-passer consulaire, ces documents remis par le pays d'origine pour permettre les expulsions d'un étranger en situation irrégulière ont bondi de 93% entre janvier et février dernier par rapport à la même période 2024. Façon pour Bruno Retailleau d'afficher aux côtés d'Abdelwafi Laftit, son homologue marocain, une forme d'efficacité retrouvée dans la coopération migratoire, cette dernière longtemps bloquée par une brouille diplomatique entre Paris et Rabat qui réduisait à néant les octrois de visas pour la France et la prise de personnes en situation irrégulière pour le Maroc. Depuis, un partenariat renforcé a été conclu dans le sillage de la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental l'été dernier. Un bouger majeur à l'origine d'une autre crise entre la France et l'Algérie, le rival historique du royaume, avec lequel de surcroît Bruno Retailleau entretient des relations exécrables.
RFI 16h08 à Roubaix, c'est le point d'arrivée des cyclistes sur la prestigieuse course Paris-Roubaix qui est en cours. 259 km éprouvants, dont 55 de pavés. Course que vous suivez, Thomas de Saint-Léger, vous êtes en direct, il y a eu des chutes, il y a du sport, où est-ce qu'on en est?
À 36 km de l'arrivée, Charlotte, et le coup de théâtre. Il y a 3 minutes de cela dans un secteur pavé. Tadej Pogacar qui jusque-là signait une course parfaite. Le champion du monde pour sa découverte de Paris-Roubaix. Le seul à pouvoir suivre le rythme de Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogacar a mal négocié un virage. Il est allé à terre. Il est tombé. Il est ensuite remonté sur son vélo. Mais il est désormais distancé par Mathieu Van Der Poel, 30 secondes environ entre les deux coureurs. Il reste 35 km, il reste bien sûr des difficultés, des secteurs pavés, mais ce sera sans doute trop dur pour Tadej Pogacar de revenir face à Van Der Poel, qui est vraiment le spécialiste de l'exercice, qui est le double tenant du titre. Van Der Poel bien posé sur sa machine dans un style à la fois élégant et brutal. Il martyrise ses pédales et il file sans doute vers une troisième victoire sur le vélodrome de Roubaix, à moins, allez savoir que ce diablotin de Pogacar nous sorte encore un tour dont il a le secret pour aller rejoindre son rival néerlandais, et là ça nous donnerait un sprint vraiment royal tout à l'heure à Roubaix dans 35 km.
Eh ben, on va suivre ça avec vous, encore un peu de suspense, on confirme ou pas, Thomas de Saint-Léger en direct du Paris-Roubaix. Juste un petit mot pour le podium du marathon de Paris ce matin, c'est le Kenyan Bernard Piwott qui l'a emporté. Côté femme, l'Éthiopienne Bedatou Irpa. Tout de suite, les bonnes pulsations du monde avec Hortense Vol.